Ce cours est dédié à la mémoire de Daniel Boukobza Zichrono Livracha par M. Meir Cohen. Ok, messieurs, on va parler d'un sujet extrêmement grave. Je parlais un peu les dernières fois. Il s'agit de faire honte à son prochain. C'est une chose qui est facile. Nous ne sommes pas des anges. Et chaque personne est très touché dans sa personnalité si on lui a fait honte, même entre deux personnes, a plus de raison de faire honte en public. C'est combien en public? C'est trois personnes. Si on fait honte en public, a plus de raison devant 300 personnes ou 3000 personnes, ou dans le journal, d'accord? C'est une chose qui est extrêmement grave. Maïmonide dit « avon gadol », un péché grave.
Il faut être
cinq. Il faut être cinq. Celui qui fait honte, celui qui a honte et trois spectateurs. D'où on apprend cela? On apprend cela de la Torah, une histoire que tout le monde connaît. Tamar, Tamar est la belle-fille de Yehuda. Yehuda, un des fils importants de Yaakov Avinu, de Yaakov, notre patriarche. Et Yehuda marie son fils aîné à Tamar. Ce fils aîné, il s'appelait Er, faisait Zera le Batala, voulait que sa femme reste belle. Alors, il faisait en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte. Et la semence de Er tombait à terre. Dieu le fait mourir. Elle se marie avec le deuxième frère, Onan, qui rebelote, fait la même technique que son frère aîné. Et Rebelot, Dieu lui fait la même technique qu'il a fait au frère aîné, le met à mort aussi. Yehuda, qui n'est pas au courant des détails de l'histoire, le père, il dit, cette femme-là, c'est une femme qui est catlanite. Elle tue ses maris. Alors il dit, écoute, reste chez tes parents. Quand mon troisième fils, il a trois fils, Yehuda, mon troisième fils, Shela, sera grand, alors c'est à toi, il te revient de te marier avec lui. Mais c'est en fait un moyen de la repousser. Parce qu'elle attend, puis elle voit que Shela grandit, et on ne la marie pas. Or, elle voulait absolument se marier avec la famille de Yaakov Avinu, faire partie du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était extrêmement, extrêmement pudique dans la maison de son beau-père. Parce que jamais son beau-père a vu la tête de sa belle-fille. D'une pudeur extraordinaire. Elle va à la croisée des chemins, se déguise en prostituée, passe Yehuda. Yehuda voit en elle une âme. Yehuda ne regarde pas la cuisse de la bonne femme. D'accord? D'ailleurs, à l'époque, les prostituées étaient... La Gemara dit, elle a caché sa face, d'accord? C'était une façon de monter contre les prostituées. C'est pas en montant, c'était en cachant. Il voit ici qu'il y a un potentiel de Neshama, quelque chose qui est très grand. Et Dieu aussi, il voulait que ça se fasse. Et il a une relation avec elle. Mais lui, auparavant, il lui demande combien tu te fais payer. Et tu m'enverras un agneau. Je lui dis, j'ai pas d'agneau sur moi. Ok, alors envoie-moi, mais donne-moi une garantie. Ok, je lui donne, Yehuda propose comme garantie de lui donner son bâton avec son sceau. Son sceau et son bâton. Son bâton sur lequel il y a marqué Yehuda, fils de Yaakov Avinu. D'accord, le nom de famille. Prénom, adresse, tout ce qu'il faut, carte d'identité. Elle prend la garantie, ils ont une relation, elle tombe enceinte de cette relation, et elle tombe enceinte de deux enfants, Zerach et Peretz, dont deux vont sortir la lignée de David HaMelech, le Mashiach. De Peretz sort le Mashiach. Donc on comprend que ce n'est pas une relation qui s'est faite comme ça. D'ailleurs, les commentateurs expliquent plus profond, parce que comment ça se fait quand le Mashiach sort d'une... D'un côté, il sort du côté de Yehuda et Tamar, cette relation prostituée. L'autre côté, du côté de la mère, ça sort de Ruth à Moabite, c'est incestueux. C'est Lot avec ses deux filles. Alors, les commentateurs expliquent très simplement. Dans ce monde, il y a le bien et le mal. Le mal, il est roi du monde. Depuis que le premier homme a fait le péché originel, il est le roi du monde. le mensonge partout. On ne peut pas aller avec la vérité de face. Il est trop fort. On doit aller en souterrain. Comme c'est un voleur, c'est un grand voleur. Attends, moi j'ai un diamant. Où je vais cacher maintenant le diamant? Dans le coffre. C'est un voleur, si il a des doigts, il trouve comme ça le coffre. Je cache dans les bouquins de Torah, comme tout le monde fait, mais c'est bien dans le bouquin de Torah, eh, viens là, c'est un truc classique, tout le monde connaît. Les commentateurs disent, tu vas prendre maintenant le diamant, tu le mets dans le pot de chambre, les excréments. Ceux qui sont dedans, là-bas. Jamais il un diamant, on ne met pas là-bas. Le Mashiach, qui est l'ennemi numéro un du mal, celui qui doit, un beau jour, égorger le mal, sa descendance, elle ne peut pas venir normalement, parce qu'elle va se faire zigouiller, tuer par le mal. Elle doit rentrer par les chemins les plus tordus possibles imaginables.
Hachem ne veut pas la faire venir et la protéger du mal.
Hachem fait que pour la protéger du mal, il y a des règles qui ont été dans ce monde-là. Il y a le mal. Dieu peut faire qu'il n'y ait plus le mal. Mais ça, ce n'est pas messianique. Dieu a créé ce monde avec le mal. Maintenant, il faut jouer avec les règles du jeu. Il y a le mal. Dieu peut éliminer le mal, mais c'est contraire à son désir.
C'est pas éliminer le mal, mais protéger la Neshama du Mashiach, du coup.
Alors on joue dans les règles du monde. Dieu ne fait pas de miracles anormaux. Le miracle est qu'il va prendre, il va faire, Dieu va protéger la descendance du Mashiach, pour que, l'ascendance du Mashiach, pour que ça passe de façon inconnue. On va camoufler. D'ailleurs, tous les grands mouvements juifs, même actuels, qui vont amener le bien, passent par un camouflage de mal. Et le mal, il est mal. Personne ne dit que c'est bien d'avoir une relation avec une prostituée. Personne ne dit que c'est bien d'avoir une relation avec son père. C'est mauvais. C'est clair. Mais c'est le seul moyen que ça puisse passer. Là, le Yetzer, il voit pas, là. Il ferme les yeux. C'est le grand secret des Baal Tshuva aujourd'hui. J'ai raconté ça souvent. C'est marqué dans la mystique juive qu'il y a des âmes qui sont prises par le mal. Le mal ne veut pas lâcher ses âmes. Ce sont des grandes âmes. Alors Dieu joue un tour, le même tour. Il écoute. Il dit au mal comme ça. Cette âme, un beau jour, doit venir sur terre. Je fais un deal avec toi. On va laisser naître cette âme dans une famille de gens qui ne se font pas la Torah. Ils mangent du porc, ils ne font pas Shabbat. Cette grande âme a toutes les chances de partir en cacahuète. Il va fréquenter Christine, se marier avec Christine, être une grande âme maintenant juive avec Christine, les petits-enfants chrétiens, tout ça. C'est dit comme ça, bonne affaire, allez, je lâche la bonne âme. Et le gosse, il est né, il mange du porc, il ne fait pas Shabbat, il va en boîte, il fait grande Christine. Et un beau jour, c'est une tellement grande âme, c'est-à-dire elle est tellement sensible à la vérité, l'authenticité de Dieu, que tu dis, mais pourquoi tout ça? Et moi je suis juif, et quoi le sens de la vie? Et hop, tout coup, un beau jour, il fait tchouva. Il fait tchouva. Plus que cela, c'est marqué très souvent, il fait tchouva à sa famille après. Même les parents qui étaient des gens qui étaient non religieux, eux aussi font tchouva après, en passant. Et Sarah se retrouve sans rien du tout. Plus que ça, c'est marqué quelqu'un qui fait tchouva, tous les péchés qu'il a faits sont transformés en mérite. C'est fait tchouva par amour. Donc, on l'a joué un bon tour. Je vais rajouter, je ne sais pas si je mettrai ça sur Internet, ça a l'actualité aussi. C'est-à-dire que jamais les nations du monde auraient accepté que le peuple juif, en tant que peuple juif, thoraïque, pratiquant religieux, revienne en terre d'Israël. C'est contraire à la chrétienté, c'est contraire à l'islam. Parce qu'ils savent que chez nous c'est marqué, on revient sur terre d'Israël, il y aura un troisième temple, à la place de la mosquée d'Omar. La chrétienté, ça, pour eux, impossible qu'on rentre en terre d'Israël. C'est impossible. Le peuple juif est condamné à vivre sans cesse dans l'esclavage et l'exil parmi les nations pour témoigner aux nations, regarder comment Dieu châtie les vilains juifs qui n'ont pas encore reconnu le caractère divin du Christ. Donc on est condamné à rester dans l'exil. Donc jamais ils n'auraient accepté. Donc, je ne parle même pas au niveau humain, je parle au niveau des forces métaphysiques. Du bien et du mal. Le mal ne va jamais accepter une chose pareille que le peuple juif en terre d'Israël. La mitzvah d'habiter la terre d'Israël, elle est énorme. Énorme. bien que ce n'est pas une mitzvah des 113 mitzvot d'après le Rambam, Maïmonide, c'est une mitzvah d'après le Ramban, Nachmanide, la lacha est plus comme Maïmonide, mais néanmoins c'est une mitzvah au moins des Rabbanan, elle est énorme. Rashi écrit que, Rashi, c'est Gmar, donc tout le monde dit que celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il n'a pas de Dieu, et il est comme un idolâtre. Et tout celui qui habite en terre d'Israël, c'est comme s'il a un Dieu, celui qui habite en Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Ceux qui habitent à l'étranger. On nourrit le côté du mal à l'étranger. Aussi, on fait aussi des mitzvot, mais... Donc le mitzvot d'habiter d'Israël, elle est énorme. Comment le mal va laisser faire une chose pareille? Que les juifs reviennent en terre d'Israël? Jamais! 2000 ans, il fait... On passe pas. 2000 ans, on passe pas. Tout d'un coup, hop! Les Nations Unies, l'ONU, dit... Allez-y! Quoi, vous nous aimez tellement? Il n'y a pas un pays dans lequel on a été en exil qui ne nous a pas persécutés. Après, il dit, ok, on vous aime bien maintenant, revenez dans vos terres, c'est pas normal. Il y a eu un camouflage. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a camouflé avec Herzl, qui n'est pas religieux. Ses enfants ne sont pas circoncis. Ben Gurion, il veut faire une société laïque, donc athée, ne croyant pas en Dieu. Et c'est nous, comme ça ils disent, nous allons créer un État juif. Les peuples, le côté du mal dit, comme ça, c'est ça l'État juif. En short, avec un falafel, pas de kippa, c'est bon. Ça, on est d'accord. Prenez, allez, oups. Et on rentre. Et des millions de juifs ne font pas la Torah en terre d'Israël. Des millions de juifs quittent la Torah en Israël. Et Sarah, il est content en Israël. Faire des avortes en Israël, c'est beaucoup plus grave que de faire aller à l'étranger. Comme les mitzvot en Israël ont plus de valeur, les avérot ont plus de valeur, les péchés ont plus de valeur. Et tout à coup, aïe 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 aïe, la beauté de l'âme juive, comme c'est beau le tour que Dieu est en train de rejouer. Ils font tchouva, les meilleurs. Des escadrilles entières de pilotes qui font tchouva. Ils ont mis au point des casques maintenant pour pilotes avec barbe. Le plus grand descendeur de MiG, 92 MiG, il a descendu, il a fait tchouva. Toute la crème israélienne fait tchouva. Et après le peuple, 500 000 juifs sont en rapprochement de Torah en terre d'Israël. Mais en terre d'Israël. Le même coup exactement. Donc pour passer l'époque messianique, qui a commencé donc à la conception même, il est obligatoire de passer par la relation avec la prostituée ou incestueuse. La suite de l'histoire, après 3 mois, mademoiselle Tamar, elle a un ventre. On va voir Yehuda, tu sais que ta belle-fille là-bas, elle est couchée avec un mec. Comme ça, qu'on la brûle. À l'époque, c'était la sentence. Elle dit, montrez-lui ce bâton et ce seau, et dites-lui, elle a entouré ça dans un emballage, personne ne voit ce que ça dit, voilà. Le type qui m'a mis enceinte, c'est celui à qui appartiennent ce seau et ce bâton. Il ouvre l'emballage, il comprend le poteau rose. Et là, il a un choix. Ou il dit, elle a raison. Ou il dit rien. S'il a raison, l'archouma, en bon français. La honte. Il dit, tzadka. Elle a raison, mais meni, de moi vient le gosse. C'est moi qui l'ai mis enceinte. Lorsque Yaakov Avinu va bénir ses enfants, le premier rentre, Rouven, il se fait ratatiner. Shimon Lévi, ratatiné. Yehuda, il tremble d'entrée. Yehuda aussi, là. Yehuda, il dit, Yaakov lui dit, Yoducha Achecha. Tous tes frères reconnaîtront ta grandeur. Parce que toi, tu as reconnu ce que tu as fait. Et de Yehuda sortira le Mashiach. Malchut Bet David, les rois uniquement. Des rois issus de la tribu de Yehuda peuvent être rois. C'est un roi qui est d'une autre tribu, il ne peut pas être roi d'Israël. Impossible. La royauté commence comme ça. La reconnaissance de ce qu'il a fait. Qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire-là? Tamar. Tamar aurait dû dire très simplement, comment il me dit à moi d'aller me... Il veut maintenant brûler trois âmes, moi et mes deux enfants. Mais c'est lui le coupable. À lui dire, espèce de... Reconnais que c'est toi qui m'as mis enceinte. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, envoyez-lui. S'il reconnaît, sinon, eh ben j'irai au feu. De là, dit Chazal, Noach lo la Adam. C'est agréable à l'homme de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain. Elle était prête à se jeter au feu pour ne pas faire honte à Yehuda. Yehuda, il avait le choix. S'il décide lui-même de se faire honte, ok, ça c'est son choix à lui avec sa conscience. Il a fait le bon choix. Mais qu'elle l'oblige, qu'elle lui fasse honte, c'est agréable. Chazal ne dit pas, c'est mieux de se jeter au feu que de faire mal à son prochain. C'est agréable. Ah, c'est bon, le feu. Plutôt que de faire mal à son, que de faire honte à son prochain. De quoi on parle? Nous sommes complètement à côté de la plaque. On se rend pas compte ce que c'est, la proportion des choses. Chazal disent que faire honte à son prochain, c'est avak shechut damim. C'est une poussière d'assassinat. C'est un peu un assassinat. Pourquoi? Parce que de même que quand tu tues quelqu'un, tu le fais saigner, là tu le fais saigner, il rougit. Rouge. Et après, il blanchit complètement. Comme quelqu'un qu'on tue. D'abord, ça rougit, il y a une blessure, après il blanchit, il se vide de son sang et il devient mort. Et dans certaines mesures, disent les commentateurs, Charles Tchouva déjà au Moyen-Âge, il dit, c'est plus grave que l'assassinat. Dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que l'assassinat, quelqu'un qui a assassiné un autre, toute sa vie, il a un cas de conscience. Quelqu'un qui fait honte à son prochain, mitzvah, mitzvah de lui faire honte. Ce qu'il a fait, il ne fait pas tout là-dessus. Et il va au Lamaba avec meurtrier. Tu as fait honte à ton prochain en public. Je vous dis, encore une fois, nous ne comprenons pas la valeur des choses. Et je ne suis pas... Si je suis joint pour en parler, j'en parle pour que nous tous, on sache du moussard. Il est très dur à quelqu'un comme nous qui ne sommes pas habitués à cela, à faire attention à chaque détail de ne jamais faire honte. Celui qui est habitué à faire cela... Les gaffes, ça arrive. Mais celui qui est habitué à faire honte à son prochain en public, c'est marqué qu'il n'a pas part au monde futur. Il descend en enfer, il n'en remonte pas. Alors, toi, ça sur place, c'est pas qu'il ne remonte pas, parce qu'on sait que l'enfer, au maximum, c'est pour, à part certains cas, c'est maximum 12 mois. Après 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Il sort de l'enfer, mais il reste entre terre et ciel. Il ne peut pas monter. Il n'a pas fait tchouva. Surtout, on peut faire tchouva. On peut tout réparer tant qu'on est vivant. Mais celui qui continue à faire honte à son prochain en public, pour un oui, pour un non, on a le droit de faire honte en public dans des cas spécifiques qu'on va étudier. D'éducation, mais faire très attention, parce que des fois, c'est une mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah, c'est la pierre de la verrotte. Comme couper le pied à quelqu'un. Des fois, il faut. Sucre, diabétique, tu as un problème, bah, pas de solution. Ou le type, ou il crève, ou on lui coupe le pied. Oh, on coupe le pied. Mais si on ne devait pas couper le pied, on l'a coupé. Quel cas de conscience. Faire honte à son public, c'est au moins comme cela. Faire honte à son prochain public, c'est au moins comme cela. Non, Arlo, c'est agréable. Il y avait un rabbin en Europe, plus son nom, rabbin Ashkenaz. Tous les matins, il allait en cachette pour faire du chesed. À la synagogue, il faisait encore 3-4 heures du matin, il allumait le fourneau pour que quand les gens viennent prier à 5h, 6h du matin, ils priaient tôt là-bas. Alors déjà, il fait chaud en synagogue, pas glag, 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 il fait froid, le temps que ça chauffe. Un jour, il vient, il était un peu en retard, et déjà, il y a un des fidèles qui vient, qui rentre en synagogue. Et lui, il ne voulait absolument pas qu'on le voie. Bon, alors il met sa tête comme ça dans le four, il est en train, donc il met sa tête dedans, parce qu'il n'a pas encore allumé, il est en train d'allumer, hop, c'est en train d'allumer. Et tout à coup, le fidèle croit que c'était le bedeau. Prend comme il donne une tape dans les fesses. Allez, plus vite, qu'est-ce que ça? C'est encore, il fait froid dans cette synagogue. Le rabbin, il a compris que s'il sortait sa tête, et le fidèle allait voir que c'était le rabbin, il a tué. Le type aurait une honte terrible. Donc il est resté dans le four, mais ça commence à chauffer. Noach lo la Adam, c'est plus agréable d'être dans le feu que de faire honte à son prochain en public. Il reste, parce que les gens fidèles rentrent. À un moment, il a vu que le fidèle ne faisait pas attention, hop, il est sorti, comme si de rien n'était. N'allons pas à l'histoire d'il y a quelques siècles. Parlons de notre génération, messieurs. Rav Moshe Feinstein, décédé il y a 20 ans. J'ai eu la chance d'être à son enterrement ici. On l'a amené des USA ici en Israël. Il a été enterré à Purim. Un jour, on le prend en voiture. Le conducteur vient, il ouvre la porte, on t'écoute le Rav, il rentre, et le conducteur ferme la porte, tac, sur les doigts du Rav. Alors j'imagine, d'après la suite de l'histoire, que ce n'était pas vraiment sur les doigts ici, où il a fracassé les doigts, mais le petit bouc, c'est-à-dire que ça reste bloqué dans la porte, ça saigne, mais c'est supportable. Mais ça fait quand même assez mal. Le Rav n'a absolument rien dit. Toute la route, jusqu'à chez lui, il reste sans rien dire. Il ouvre la porte, et hop, on va discrètement. Pour faire honte au conducteur. Des anges. La Torah nous demande d'être des anges. On ne fait pas honte à son prochain. Plus tu es grand, plus tu peux faire honte facilement. Plus celui qui est grand, tu lui dois du respect. Si tu manques du respect, ça peut lui faire honte. Il y a un midrash, vous savez qu'à Tisha B'Av, on lit le midrash de Echa. On lit Echa. Echa, c'est les lamentations. Ça parle de l'exil. Le midrash sur Echa raconte que tous les grands patriarches, tous les grands prophètes d'Israël ont intercédé vers Dieu pour que Dieu arrête la galoute. Abraham dit, j'ai sacrifié mon fils. Yitzhak dit, je me sacrifie moi-même pour toi. Yaakov dit, j'ai souffert toute ma vie, en exil chez Laban, en exil en Égypte, mon fils a disparu, tout ça pour toi Dieu. Moshe dit, j'ai 40 ans, j'ai été dans le désert, pour ce que je ne peux pas rentrer en terre d'Israël. Tout ça, j'ai fait pour toi. Tous les grands mérites, tous nos patriarches, chacun viendra avec toute sa cargaison de mérite. Et Dieu dit, recalé. Aucun de vous peut me faire changer ma décision. Mon peuple d'Israël a péché. Il a servi d'autres dieux. Il reste en galoute. Une seule personne du Midrash pourra venir et convaincre Dieu. Il dit, tu m'as vaincu, c'est bon. Par ton mérite, j'arrête les galoutes. Qui c'est? Rachel Imeno. Rachel, qui est la femme que Yaakov aime, et elle aime Yaakov, dès qu'ils sont vus, ils sont aimés. 7 ans, Yaakov, il a travaillé comme un forcené pour l'avoir. Elle apprend en dernière seconde, Rachel, qu'on veut mettre Léa à sa place. Son père, Laban, veut mettre Léa à sa place, sa sœur. Maintenant, Rachel et Yaakov savaient très bien que leur père Laban, le père et beau-père, c'est un type qui roule les gens. Alors ils ont fait, à l'époque, la nuit de mariage, c'était tout dans le noir. Ils avaient peur qu'ils lui mettent une autre fille à la place. Ils ont fait un signe de reconnaissance. Le signe, c'est se tenir le lobe de l'oreille, le pouce de la main droite, le pouce du pied droit.
C'est pour ça qu'au temple, on met du sang à ces endroits-là ou pas?
Non. Au temple, on met que ici. C'est un signe, c'est le signe. Certainement, il y a des choses très grandes là-dedans. Elle se dit, Rachel, si maintenant, on met ma sœur Léa, qu'elle ne connaît pas les signes, en pleine nuit, il n'accepte pas elle, la pauvre, elle aura honte. Tout le mariage, tout ça, elle va se retrouver, elle aura une honte terrible. Mais si je lui dis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je perds ma place. Elle ne concevait pas que Yaakov puisse se marier avec deux sœurs. La Torah interdit de se marier avec deux sœurs. Yaakov, à la fin, oui, se mariera, parce que la Torah n'a pas encore été donnée. Si elle est effective qu'en terre d'Israël à l'époque, à l'étranger, on peut. Mais personne ne savait ce truc-là, ni Laban. Laban aussi voulait, qu'il n'y ait pas le peuple d'Israël. S'il dit, si je donne Léa, il n'y aura pas le peuple d'Israël. Rachel se dit, si maintenant je donne les signes à ma sœur, on fait rentrer Léa à ma place, il n'y a pas de peuple d'Israël. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de Torah, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas voir ma sœur qui aura honte. Je passe outre. Tant pis. Je gâche ma vie. Ce n'est pas moi qui fera le peuple d'Israël. Peut-être Léa fera. Moi, je ne pourrais pas faire. Elle donne les signes à sa sœur Léa. elle va voir Dieu, Dieu, toi, t'es jaloux de quoi? De faux dieux qui n'existent pas. C'est rien. Les dieux que vont servir le peuple d'Israël, ce sont des faux dieux. Pourquoi ils te quittent? Quoi? Pour des bagnoles, pour de l'argent, pour des filles? C'est choum d'avoir, c'est rien. T'es jaloux d'eux? Moi, j'avais de quoi être jalouse. Que ma sœur allait fonder le peuple d'Israël. Et c'était moi qui devais le faire. Et j'ai donné les signes. Pour ne pas faire honte à ma sœur. Alors toi maintenant aussi. Aie pitié de ton peuple. Qui est honteux parmi les nations. Et arrête la galoute. Dieu dit. Mini kolech mi bechi. Arrête de pleurer Rachel. Qui est sachal pour la terre. Il y a un mérite à l'action que tu as fait. Arrête de pleurer. C'est bon. Nous allons prier. Tu vas aller prier à la tombe de Rachel Imen ou pour qu'elle prie à Dieu qu'il arrête la galoute. Très bientôt. Berachamim. En miséricorde. Pas faire honte. Vu que faire honte, c'est comme l'assassinat, on a une loi. Si quelqu'un vient nous dire ou je te tue, ou tu manges du porc, ou je te tue, ou tu te rends à Yom Kippour, ou je te tue, t'as une lumière à Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On transgresse, on ne s'est pas tué. À part trois interdits graves. Ou je te tue, ou tu tues. Je ne tuerai pas, tue-moi. Ou je te tue, ou tu fais de l'idolâtrie. Je ne serai pas idolâtrie, tue-moi. Ou je te tue, ou tu vas avoir une relation interdite, relation sexuelle avec une personne interdite. Je ne touche pas. Tu me tues. Les postes qui me disent, vu que faire honte à son prochain en public, c'est de l'assassinat en quelque sorte, mieux vaut se faire tuer. Le cas qu'on a vu avec Tamar, qui est prête à se faire tuer pour ne pas faire honte à Yehuda. Alors, ils disent, pas pour n'importe quelle honte. Il s'agit maintenant d'une question de vie ou de mort. Qui m'a piqué mon chewing-gum? J'ai mis mon chewing-gum ici, il est où? Ah ouais, c'est moi, excuse-moi. D'accord. Dis-moi un tout petit peu honte, c'est pas grand-chose. Mieux se faire tuer que de faire ça. Non. Mais c'est vraiment une grande honte, en public, alors il fallait demander à un Morora, un grand décisionnaire qui tranchera qu'est-ce qu'on doit faire. Mais c'est marqué dans les livres. À certains égards, des fois, mieux vaut se faire tuer que de transgresser cet interdit de faire honte à notre prochain. Et combien, nous, on peut aller au nom de la Torah, quand on va encore au nom du mal. Mais le danger, c'est que les gens utilisent maintenant la Torah à dire c'est le mitzvah, il faut faire honte, il faut le dénoncer, tati, tati, quoi, comment, où.
On ne dit pas c'est mitzvah tracidoute, spécifique plutôt que de faire honte.
C'est-à-dire, à certains égards, il faut ce qu'ils me disent, que c'est une halakha. Alors, dans quel cas oui, dans quel cas non, on ira voir un décisionnaire actuel. Oui.
Aujourd'hui, nous, à notre niveau, si on arrive à, si par accident, on fait honte à quelqu'un, c'est parce que on va avoir un excès de colère ou un excès d'orgueil. Donc en fait, le défaut, est-ce qu'il n'est pas ailleurs? Parce que faire honte, on est tous d'accord pour ne pas faire honte et on comprend très bien.
Ok, alors on a tous le défaut, mais si on comprend maintenant à quel point c'est grave, un cours pareil, quand tu sors, tu feras plus attention, c'est certain. Moi-même, quand j'ai préparé le cours, tu vois, tu remarques que facilement, tu peux faire une remarque à quelqu'un. Ici, là, je vois, c'est très simple, tu fais une remarque à quelqu'un. Tu peux la faire en public ou tout seul, tout à fait différent. Et avec quelle gentillesse tu le fais? Comment tu amènes la chose? Et chacun avec sa susceptibilité. On fait plus attention. On fait plus attention. Je ne parle pas maintenant. Quand tu es en colère, ok, c'est déjà une chose. Tu sais qu'il faut pas. De toute façon, il faut pas se mettre en colère. Mais des fois, par manque d'attention. Par manque d'attention. Par manque de connaissance des dégâts que ça provoque, de la gravité des choses. D'où on apprend qu'on doit se mettre même en danger de mort. Pour ne pas faire honte à notre prochain, on l'apprend de Yosef. Yosef était vendu par ses frères en esclavage en Égypte. Et la providence a fait qu'il devient le roi d'Égypte, le second du roi d'Égypte. Mais il est déguisé. À l'époque, il mettait un postiche, une fausse barbe, voilà. Yosef. Il a un surnom, c'est Sofnal Panear. Personne ne l'appelle Yosef. Et l'histoire est connue, viennent les 10 frères. Et 11 à la fin, tous les frères sont là, et va se dévoiler. Leur dire, je suis Yosef. Maintenant, avant de se dévoiler, il a kidnappé Binyamin, le fils adoré de Yaakov, et il dit au frère, je garde Binyamin, vous rentrez maintenant en terre d'Israël. Il restera esclave ici. Il est accusé de vol, il a volé, tout ça c'est une machination. Les frères sont prêts à mettre à sac toute l'Égypte pour sauver Binyamin. Déjà, on fait le coup avec Yosef, ils l'ont vendu en esclavage, ils ont vu que c'était terrible les dégâts que ça fait chez leur père Yaakov. Ils sont prêts à tuer tout le monde, mais Binyamin rentrera avec eux en terre d'Israël. Yosef est une folie pure. Il dit à tous les Égyptiens, sortez d'ici. Pourquoi? Il ne veut pas que ses frères aient honte lorsqu'il va se dévoiler. Je suis Yosef, votre frère que vous m'avez vendu en esclavage. Ils vont avoir honte qu'ils n'aient pas honte en public. Mais quand il dit aux Égyptiens de sortir, il se met en danger de mort. Parce que eux, il n'y a personne, Yosef vient ici, clac, 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 terminé. Ils prennent Binyamin et ils partent en douce. Vous me direz, de quel droit Yosef fait honte maintenant à ses frères? Alors on verra qu'il y a des cas où oui, on peut faire honte. Quand c'est une question éducative, un prof peut faire honte à ses élèves. Je peux faire, quand je fais une tochecha, une correction à quelqu'un, dans certaines mesures, on verra qui, quoi, comment, c'est très délicat, on a le droit de faire honte. Là, maintenant, c'était leur tikkun, leur réparation, c'est qu'eux reconnaissent maintenant, il n'y a pas d'autre façon. Il fallait que eux, il ne veut pas leur faire honte, mais je suis Yosef. Donc si c'est entre nous, ils auront moins honte. Si c'est en public, c'est déjà trop. Le minimum possible. Et je dois quand même leur dire que je suis Yosef. Il existe Yosef, il est là. On voit qu'ils sont en danger de mort pour ne pas faire honte à ses frères. Donc c'est une halakha. On doit se mettre en danger de mort pour ne pas faire honte à son prochain. Comme ça, c'est une honte, comme je l'ai dit, qui est grande. Honte petite, alors on ne se mettra pas en danger de mort, quand même la vie est plus importante que cela. Il y a un livre qui a été écrit au Moyen-Âge, qui s'appelle Menorat HaMaor. C'est un grand livre de Moussard, et qui dit, regarde, de Tamar, qui est sorti? Des rois et des prophètes. Le roi David, toute sa descendance, le roi Salomon, des prophètes. David était un prophète aussi. Par quel mérite? Parce qu'il n'a pas fait honte à son prochain en public. On apprend donc d'un côté c'est très grave, d'un côté celui qui fait attention de ne pas faire honte à son prochain en public. Combien grand son mérite? Dit le Menorat HaMaor, il aura des enfants qui seront des rois et des prophètes. Des dirigeants du peuple d'Israël, ou des grands chachamim du peuple d'Israël. Un chacham est plus grand qu'un prophète. Donc des grands personnages. Ce goût-là, ça me combine pour avoir des enfants qui sont bien, faire attention de ne pas faire honte à son prochain. Le Razonich a dit, celui qui arrive à passer 70 ans de vie sans faire mal à son prochain, il a passé haut la main le défi de ce monde-là. C'est le projet numéro un qu'on a dans ce monde-là, dans ce monde-ci. Rabbi Pinchas ben Yair, c'est le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. C'était un grand rabbin qui faisait des miracles. Et un jour, il part pour aller faire une mitzvah. Et il arrive, il y a un fleuve. Fleuve Guinaï. Il lui dit, Guinaï, ouvre-toi. Guinaï dit, dis-moi, toi tu t'es créé quand? Tu as été créé le sixième jour de la création, premier homme. Moi je l'ai créé le deuxième jour. Dieu ordonne les autres de se retirer, etc. Donc moi je passe avant toi. Dieu m'a ordonné à la création de couler. Pinchas ben Yair dit, écoute Guinaï, ne joue pas avec moi, parce que si tu continues comme ça, je fais un décret maintenant que tu t'assèches. Je vais faire une mitzvah maintenant de la Torah. La Torah passe avant tout. Elle est créée encore bien avant toi. Bon, Guinaï il s'ouvre. Il ne fait pas le malin avec Pinchas ben Yair, on ne discute pas. Il ouvre et il se referme tout à coup de nouveau. Il coule. Les élèves qui accompagnaient Rabbi Pinchas ben Yair, ils disent, et nous, quoi la rave, nous, et on va aussi faire la mitzvah avec vous. Pinchas ben Yair se dit, ok, c'est bon. Celui qui sait qu'il n'a jamais fait honte à un juif de sa vie, qu'il passe. Bon, je ne sais pas, l'histoire ne raconte pas qui est passé, qui n'est pas passé. Le fleuve peut s'arrêter pour quelqu'un de ce calibre-là, qui arrive à faire attention et qui peut dire « j'ai jamais fait honte à mon prochain en public de ma vie ». Ça vaut la peine, hein? Tu vas aller à Paris, à pied sec, par la mer. Bientôt, on passe dans les trois semaines de deuil de l'exil du peuple d'Israël. Dans le traité Gittin, page 54, si je me souviens bien, 54-55, il y a là-bas 3-4 pages qui racontent toutes les raisons qui ont provoqué cet exil dans lequel nous sommes jusqu'à aujourd'hui, cet exil qui a provoqué tous les pogroms, la Shoah, tous ces malheurs-là. Quelle est la première histoire que raconte la Bhagavad Gita dit. À cause de Kamsa et Bar Kamsa, le temple a été détruit. Quelle est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa? Il y avait un type qui avait un très bon ami qui s'appelait Kamsa, un très grand ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Et cet homme-là dit à son valet, va s'il te plaît, je fais un grand repas maintenant, une réception très importante, il y aura tous les grands rabbins de la génération, va appeler mon ami Kamsa. Et ce crétin de valet, il s'est trompé, il l'a amené à la place Bar Kamsa. Le type arrive à la réception, comme ça, très honoré, tout le monde fait des honneurs, le grand riche de la Rothschild de la génération, tout coup il voit Bar Kamsa. Qu'est-ce qu'il fait ici celui-là? Mon ennemi. Il vient lui dit dehors. Bar Kamsa lui dit, écoute, si tu me mets dehors maintenant, ça me fait honte en public. Je te paye mon repas. L'autre dit, pas question, tu fiches le camp tout de suite. Écoute, je te paye la moitié du repas, toute la réception, la moitié, je paye moi. Pas question, tu sors dehors. Écoute, je te paye tout le repas, toute la réception, mais ne me fais pas honte en public. L'autre dit, écoute, je compte jusqu'à trois, tu sors dehors. Bon, Bar Kamsa est mis dehors. Il s'est dit. Il y avait là-bas des camps Rahamim, ils n'ont rien dit. L'argent de Rothschild, ça a dû leur faire avoir des dollars dans les yeux. Si c'est comme ça, je vais me venger. Il est allé voir le roi des Romains, César, lui disant, les Juifs sont révoltés contre toi, amène-les, fais une guerre contre eux. Bon, César n'est pas aussi bête, il va vérifier. Qui me dit qu'effectivement ils ont fait une révolte? Prouve-moi. Voilà, c'est très simple. Amène-leur un sacrifice, envoie-toi un sacrifice, les Goïms peuvent envoyer des sacrifices au temple, c'est permis, tu verras qu'ils ne vont pas sacrifier. César dit, c'est bon, il envoie un agneau, il dit, voilà, c'est la part de César, je veux que cet agneau soit sacrifié au temple des Juifs. Et il envoie avec quelques légionnaires comme ça pour voir ce qui va se passer avec cet agneau. Par comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une loi en ce qui concerne faire un animal qui a un défaut, on ne peut pas sacrifier au temple. Les lois de sacrifice sont différentes pour les non-juifs et les juifs. Dans un temple non-juif, on peut amener un animal, même s'il a la lèvre qui est fendue ou la paupière qui est fendue, du moment qu'il ne lui manque pas un membre, alors ça va. Mais au temple juif, on ne peut pas faire une chose pareille. Il faut que ce soit vraiment qu'il soit nickel. Qu'est-ce qu'il a fait, Bar Kamsa? Il a fendu la lèvre de l'agneau. D'après les Goïms, d'après César, cet animal tout à fait cachère pour être sacrifié. Donc il n'y a aucune raison légitime de le refuser. D'après les Juifs, c'est impossible. Un animal pareil, on ne peut pas, on est interdit de sacrifier un animal pareil au temple. Donc Bar Kamsa, il joue un sale tour aux Juifs. On verra ce qu'ils vont faire maintenant. Les Rachamim, les sages d'Israël ont vu cet agneau, ils disent, on ne peut pas le sacrifier, qu'est-ce qu'on fait? Mais si on ne sacrifie pas, c'est un accident diplomatique grave, César va venir avec ses armées, c'est cuit. Dans un cas pareil, on prend l'agneau, on le sacrifie. Il n'y aura plus de temple. Mieux vaut qu'il y ait un temple avec un agneau qui perd bien plutôt que plus de temple. Viens Chacham, dont j'oublie le nom maintenant, qui dit, impossible. Si maintenant on va sacrifier cet agneau, tout le monde va dire, alors on peut de nouveau, les rabbins ils jouent, un jour oui, un jour non, on peut sacrifier un animal qui a la lèvre qui est fendue. Rabbi, on dit, ouais, mais dans ce cas-là, si on ne fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Là, les gens vont dire qu'on va appeler une armée entière pour nous tuer. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, il y a une solution, on va prendre comme ça, en douce, on le liquide, comme ça, il n'y a aucun problème. Mieux vaut liquider un juif plutôt que liquider 2 millions de juifs. Ce type-là, il est indigne de Rodef, il est indigne de dénonciateur qui veut le mal du peuple juif. Ce même rabbin, il a dit, mais les gens vont dire que celui qui amène un sacrifice qui a la lèvre qui est fendue, on le tue. C'est un truc de maboule. Pour finir, à cause du rabbin, ils ont décidé, on ne sacrifie pas l'animal. Et César est venu, Adrien, c'était, et il a détruit le temple. C'est pas Adrien, c'était Vespasien est venu, Titus et Vespasien sont venus, et on a détruit le temple de Jérusalem, et on est encore en exil jusqu'à aujourd'hui. La Gemara, elle dit, regarde, Gama Kama Gadol Kochash El Boucha, combien est grand la force de la honte. Parce que Dieu maintenant a accepté tout le tour qu'a fait Bar Kamsa, parce que Dieu en quelque sorte il a pas empêché, il aurait pu faire Bar Kamsa une crise cardiaque au mieux. Il n'a pas fait. Il a accepté Dieu que Bar Kamsa fasse toute sa machination pour que le temple soit détruit. À cause de quoi? De la honte. Que l'autre l'a mis dehors, aux yeux de tout le monde, et personne n'a réagi. Kama, Gdola, Kocha, Shebusha, combien est grand la force de la faire la puissance de la honte. Donc à nous, messieurs, de faire attention, de faire plus attention à cela, et bien Hachem, par le même mérite qu'on se renforce, Dieu reconstruira le temple, bimara, 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 bimara